Bonjour Frédéric Petit.
Bonjour.
Vous allez rendre aujourd'hui à l'Assemblée nationale un rapport sur les Balkans occidentaux dans le contexte de la guerre en Ukraine. Il s'agit de la Serbie, du Monténégro, de l'Albanie, de la Macédoine du Nord, de la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo. Vous avez réalisé ce travail avec Marine Amelet, députée Rassemblement national du Tarn et Garonne. D'un mot, très rapidement, vous avez pu laisser de côté facilement vos désaccords politiques pour travailler en bonne intelligence sur cette mission ?
Oui, nous avons travaillé en bonne intelligence, mais sans laisser nos désaccords politiques de côté, puisque nous avons des désaccords politiques en particulier concernant cette région,
oui.
Mais qui étaient exprimés. Et puis c'était voilà, nous avons travaillé comme on doit travailler dans un Parlement, c'est-à-dire quand on est en opposition, on s'explique et on avance. Et comme nous étions sur le terrain, c'est vrai que c'était plus évident. Il y avait un petit déséquilibre du fait que c'est ma circonscription. Moi, je connais très bien. Et je salue ma collègue qui a accepté cette espèce de déséquilibre et qui m'a fait confiance sur un certain nombre de sujets, en particulier sur la façon dont nous avons organisé le travail. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait quelque chose par pays, nous avons traité par thème.
Par thématique.
Par thématique. Ouais. Hein, donc les institutions, l'économie et l'environnement, la défense et la sécurité et le rapport entre nationalité et citoyenneté, qui est un sujet que je tenais absolument à voir. Justement, raison de plus avec quelqu'un du Rassemblement national à notre ordre du jour.
Dès l'introduction de votre rapport, vous dites que l'offensive lancée par la Russie sur l'Ukraine ne doit pas détourner l'Union européenne des Balkans occidentaux au risque, dites-vous, de laisser un vide en plein cœur du continent européen qui pourrait être occupé rapidement par des pays comme la Russie, la Chine ou la Turquie. L'enjeu est là, donc c'est ou l'Union européenne ou des puissances pas très amicales à notre égard.
Oui, je suis pas convaincu que ces pays soient aussi détournés de l'Union européenne qu'on le dit. Par exemple, dire que la Serbie est pro-russe, c'est pour moi une aberration. La Serbie, depuis la Première Guerre mondiale, est très liée, y compris dans les campagnes, dans les chansons populaires, est très liée à la France. Mais par contre, plus que laisser le champ à d'autres partenaires mondiaux, à d'autres blocs, ça serait pour moi laisser le champ à une forme de chaos, à une forme d'absence qui serait dramatique pour nous. Pour nous, c'est quelque part une région magnifique, c'est une région où il y a des choses à faire et il faut les faire ces choses en européen, c'est-à-dire en acceptant que la nation soit une nation citoyenne et pas forcément une nation ethnique, en imposant un certain nombre de choses qui font que dans notre modèle européen, la différence, comme on dit, unie dans la diversité, le conflit n'est pas quelque chose qui empêche d'avancer avec son adversaire. C'est quelque chose qui nous fait travailler, comme le franco-allemand par exemple.
Vous êtes partisan, Frédéric Petit, donc d'accélérer l'intégration de ces pays dans l'Union européenne. Et vous disiez hier dans une tribune publiée dans Le Monde, en faisant fi des lourdeurs bruxelloises et de la technostructure européenne. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que d'une certaine manière, il faut brûler des étapes ?
Non, pas du tout. Il ne faut pas brûler des étapes. Simplement, ce que je veux dire et que je dis depuis 5 ans, depuis très longtemps, et même depuis avant que je fasse de la politique, je pense que ces pays, il faut que l'adhésion soit l'un des outils. Et il faut la faire bien. On ne peut pas être à l'intérieur de l'Union européenne si on n'a pas l'état de droit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Vous n'êtes pas favorable à une forme d'indulgence
non,
sur un certain nombre de sujets comme l'état de droit, la corruption, la séparation des pouvoirs.
Au contraire. Par contre.
Mais pour atteindre les standards européens en la matière, il y a beaucoup de chemin à parcourir encore.
Bien sûr. Mais ce que je prétends, c'est que il y a des sujets, des chantiers. Je vais utiliser ce terme, des chantiers dans cette région, qui sont des chantiers qui concernent l'Union européenne et qui ne sont pas liés strictement à ces procédures d'adhésion. Par exemple, le chantier de la démographie. Par exemple, le chantier de la construction des infrastructures. Ce sont des choses que nous pouvons déjà faire et qu'il faut faire. Le chantier de la réconciliation entre les différentes ethnies. Vous savez qu'on a 29 ethnies dans les Balkans. C'est une essence d'Union européenne. Enfin, une essence au sens philosophique du terme. Donc, nous avons des choses à faire. Et je dis souvent même, il m'arrive très souvent de dire, les Balkans sont l'avenir de l'Union européenne. Alors là, quand je dis ça, les gens disent « il est un peu fatigué, notre député, qu'est-ce qu'il veut dire ?» C'est plutôt le contraire. Alors le contraire est vrai aussi. Mais quand je dis ça, ça veut dire que notre modèle d'Union européenne qui s'est créé sur la réconciliation, qui s'est créé sur le dépassement des conflits, ou bien si nous n'arrivons pas à travailler là-bas avec ce modèle, eh bien c'est que peut-être nous aurons failli. Donc il faut absolument, c'est vital pour notre Union européenne que notre modèle, qui est un modèle où on est en conflit sans se faire la guerre, j'aime bien cette expression, on est en conflit sans se faire la guerre, on accepte de parler 24 langues, enfin on a 24 langues, on a 5 alphabets, on est un peu tordu, mais c'est ça nous, ce que nous on apporte au monde. Donc ça, il faut le faire dans les Balkans, et le promouvoir dans les Balkans, ça nous concerne.
Alors je disais donc les obstacles sont assez nombreux. Vous évoquez dans ce rapport la fragilité de l'État de droit. Vous évoquez également la confiscation de l'État par le clientélisme et une séparation des pouvoirs précaires. Et puis il y a également le problème de la corruption, un problème qui existe d'ailleurs aussi en Ukraine, une corruption qui est assez élevée. Je voudrais citer, c'est dans votre rapport, ce qui s'est passé par exemple en Albanie, qui s'est lancé dans une vaste réorganisation de son système judiciaire par une procédure dite de réévaluation des juges et procureurs qui consiste à examiner les dossiers donc des 800 magistrats du pays pour décider de les confirmer ou de les démettre de leurs fonctions et sur la base en particulier de l'origine de leurs revenus. 535 magistrats ont donc été réévalués et à ce stade 60% ont été démis de leurs fonctions ou bien ont démissionné au cours de la procédure. C'est tout de même un chiffre assez stupéfiant.
Mais c'est bien.
C'est bien. C'est bien que ça se fasse. Alors, mais enfin, ça met quand même le projecteur sur un niveau de corruption tout à fait considérable, non ?
Mais oui, mais si vous voulez, on n'invente pas celui qui veut vraiment travailler, pas uniquement crier dans la rue ou faire de l'activisme, eh ben, il affronte les problèmes. Il y a des problèmes. Alors, il y a deux problèmes qui sont un peu différents que j'invite, moi, à différencier. C'est le problème de la corruption grave et de ce qu'on appelle le népotisme. Ce n'est pas tout à fait les mêmes outils. Je voudrais, sur l'exemple albanais, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. L'acceptation sociale de cette réforme, c'est assez intéressant parce que ça a été au début assez lent. C'est-à-dire que les gens étaient plutôt... Il y a eu un problème, parce que du coup, on n'avait plus de juges.
Ça a désorganisé le système judiciaire.
Voilà, parce qu'il faut les former, les nouveaux juges, ceux qui seront moins corrompus. Et aujourd'hui, parce que c'est un processus qui a déjà plusieurs années, aujourd'hui, on sent que dans la population, il y a une forme de sagesse, de se dire, bon, c'était un peu dur, c'était un peu bizarre, mais on a bien fait de faire ça.
Oui. Alors votre axe de travail, l'un de vos autres axes de travail, c'était la situation économique. Et il apparaît clairement que le fossé avec la moyenne des pays de l'Union européenne est très important, mais il est aussi important entre les différents pays de la région.
Oui, bien sûr. Sur le côté économique, on a lié ça dans cette deuxième thématique, c'était économie et environnement. Oui. Hein, donc Je reprends le terme de chantier. Il y a des chantiers magnifiques à faire ici, à faire dans cette région. Nous avons des Français qui sont en train de reprendre la gestion des déchets à Belgrade. On est allé visiter l'installation. Et ce que je crois profondément, c'est qu'effectivement, il y a des divergences, il y a des différences. Mais comme il y en avait à la sortie de la guerre, l'Allemagne, on ne mange pas hein, en Allemagne. On a du mal à manger en Allemagne, alors qu'en France... On est déjà un peu sorti de l'économie de guerre. Donc ces différences-là, on ne peut les traiter qu'avec ce modèle européen qui est un modèle de réconciliation par l'économie. Voilà, donc la mobilité, par exemple, la mobilité entre ces pays qui est en train de petit à petit de se mettre en place, ça est quelque chose qui a déjà fait gagner 30 milliards, paraît-il, aux entreprises locales de ne plus avoir de frontières entre eux.
Rapidement, à quelle échéance, pour vous, ces pays pourraient intégrer l'Union européenne, sachant que sur les 6 dont on parle, 4 sont déjà candidats et 2 ne le sont pas, la Bosnie et le Kosovo, c'est ça, hein ?
Oui, c'est Bosnie et Kosovo, c'est un peu plus compliqué. La Bosnie a déjà un statut de candidat plus ou moins reconnu, mais avec un statut un peu particulier. Oui. Moi, ce que je voudrais dire, je pense qu'il faut qu'on ait une échéance concrète à 2030. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à des gens, peut-être que si vous êtes sages, que les petits-enfants de vos petits-enfants seront avec nous. Par contre, ce qu'il faut bien différencier, et c'est ce que la France a fait, c'est ce que la France a fait il y a quelques années, c'est qu'il faudrait qu'on ait une adhésion qui soit exigeante.
Merci.
Sur l'état de droit et qu'ils puissent commencer à travailler avec les autres.
Merci Frédéric Petit, bonne journée.
Merci à vous.